Père Mathias Amiot, bonjour.
Bonjour, soyez les bienvenus. C'est l'heure de votre émission mensuelle Trésor de l'année liturgique. Nous sommes à la fin du mois de mars, le mois d'avril va bientôt s'ouvrir et il est marqué par la résurrection. En effet, Pâques est célébré entre le 22 mars et le 25 avril. Et donc ça veut dire qu'à la fin du mois d'avril, nécessairement, nous sommes dans le temps pascal, le temps de la résurrection. Au cours de cette émission, nous allons évoquer cette thématique de la résurrection qui n'est rien de moins que la clé de voûte de notre foi. Pendant le temps pascal, l'Église célèbre et acclame Jésus victorieux. Et nous notons d'ailleurs une petite disproportion, 50 jours pour le temps pascal et 40 jours pour le temps du carême. Cette différence de 10 jours signifie que l'éternité dépasse largement la vie terrestre et que la récompense céleste est largement au-delà de nos efforts. Commençons par regarder cette résurrection comme étant la clé de voûte de la foi chrétienne. Pour cela, je vous renvoie au chapitre 15 de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Et justement, pour bien souligner l'importance de la résurrection, l'apôtre va montrer ce qui se passe si elle n'a pas eu lieu. Écoutons Paul nous dire « Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés et donc ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. » Pour le dire autrement, si Jésus n'est pas ressuscité, il n'est donc pas plus fort que la mort. Cela veut dire que la foi chrétienne n'a pas de valeur et notre condition ne diffère pas des païens. Et pire encore, nous avons une fausse espérance. C'est ce que dit Paul dans le verset suivant, verset 19. « Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Mais heureusement pour nous, Paul termine son développement en revenant à la foi. « Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. » Mais en tout cas, ce passage est très important pour dire que si la foi chrétienne est un édifice, alors la résurrection, c'est une clé de voûte. Et si on enlève la clé de voûte, eh bien l'édifice s'effondre comme un château de cartes. Donc ça veut dire que la résurrection, c'est à la fois un peu l'alpha et l'oméga, c'est un peu la fondation et la clé de voûte. Et si on l'oublie, alors effectivement, notre foi est assez fragile. Deuxième regard, après la clé de voûte, nous allons regarder en quoi cette résurrection est un événement tout à fait singulier. Pourquoi ? Parce que la résurrection n'est pas, on ne peut pas l'approcher par la science dite historique. Alors on sait bien que la science historique, ou l'histoire, c'est l'étude des documents et leur interprétation. Donc ça veut dire qu'un historien, il va se baser sur des témoignages qui ont été produits, les relier entre eux pour effectivement attester qu'un événement peut ou n'a pas eu lieu. Alors ce qui est certain, c'est que deux choses sont attestés par l'histoire et que personne ne remet en cause. Enfin, il n'y a aucun historien sérieux qui remet en cause les deux événements suivants. D'abord, la vie de Jésus. Ça, la vie de Jésus, on est à peu près tous d'accord qu'il a existé, qu'il a prêché et qu'il est mort. Ça, c'est quelque chose qui est admis universellement, même par des athées, même par des... Tout le monde voilà, reconnaît ce fait, incontestable du reste. Et un deuxième fait qu'on rapproche, c'est l'émergence de communautés chrétiennes au fil du temps et surtout après l'événement de la mort de Jésus. Donc très tôt, dès les années 40-50, on a des témoignages attestés et fournis de personnes qui attestent que Jésus est vivant. Et entre les deux, évidemment, on sent bien que l'histoire ne peut pas approcher, mais la raison oblige à envisager un événement fondateur. Sinon, on serait dans un événement inexplicable qui serait soit une hallucination collective et en plus croissante, ou alors un mensonge cru par beaucoup de monde, ce qui ne tient pas la route, évidemment. Et on va rajouter donc entre cet événement qu'on rajoute par la raison, à la foi qui accueille la raison comme le lien naturel entre ces deux événements, à savoir Jésus est bien mort, on confesse sa résurrection, et donc automatiquement, ça permet de comprendre pourquoi l'Église a connu une grande croissance dès les premières années qui ont suivi la résurrection et la Pentecôte. Bien sûr, l'histoire en elle-même est muette. Elle ne peut pas, si vous voulez, attester la résurrection parce que c'est un acte de foi. Cela dit, on peut dépasser la logique pour accéder au niveau théologique. Ça sent que la théologie reste logique, mais avec des présupposés, on va dire, supplémentaires. Donc un événement singulier, mais qui en fait est déjà attesté avant même la résurrection de Jésus. Car en effet, si nous parcourons les pages de la Bible, nous remarquons qu'il y a au total 6 résurrections. Dans l'Ancien Testament, ce sont des passages assez peu connus, il y a des résurrections, notamment le fils de la veuve de Sarepta, qui est ressuscité par le prophète Élie. Il y a aussi le fils de la Tsunamite, ressuscité cette fois-ci par Élisée, donc qui est le disciple du prophète Élie. Et puis il y a une troisième résurrection, alors là encore moins connue, c'est un homme mort qu'on jette dans le tombeau du prophète Élisée et qui va ressusciter au contact des os du prophète. Donc d'ailleurs, c'est un petit passage qui permet d'attester le culte des reliques. Bon, ça, c'est pour une autre émission, mais en tout cas, effectivement, l'Église reconnaît que certains saints, eh bien, on peut effectivement s'approcher, vénérer leurs reliques, c'est-à-dire littéralement ce qui reste de leur corps, et que c'est un moyen pour nous de nous mettre en relation par l'intercession de ce saint ou de cette sainte avec Dieu. Donc 3 résurrections dans l'Ancien Testament et 3 aussi dans le Nouveau Testament, qui sont assez connues. Donc on a Lazare, Jean chapitre 11, la fille de Jaïr, avec la femme hémorroïse qui effectivement s'intercale dans cet épisode, et aussi le fils de la veuve de Naïn, au chapitre 7 de Saint-Luc, et on peut rajouter aussi une résurrection par Pierre et une autre par Paul dans les Actes des Apôtres. Alors est-ce que ces retours à la vie, on peut les qualifier de résurrection? Pas tout à fait en fait. Et c'est là que le mot n'est pas facile à employer, puisque la résurrection, par définition, c'est l'entrée définitive dans la vie divine. Or, toutes ces personnes qui ont retrouvé la vie ne sont pas entrées dans la vie divine. On va dire qu'elles ont repris une vie, on va dire, normale. Enfin, elles ont bien sûr connu un avant et un après, mais elles ont dû concrètement mourir une deuxième fois, ce qui est un peu paradoxal, bien sûr. Donc, ce qui est certain, c'est que ces signes et ces miracles sont extraordinaires, sont éclatants, mais au sens littéral, on a un peu de mal à parler de résurrection. Donc on peut éventuellement employer le mot de la tradition orthodoxe qui aime plutôt parler du réveil de Lazare. Même si évidemment ces signes, ces prodiges extraordinaires pointent bien évidemment vers la résurrection de Jésus qui donc a donné des indices, des signes forts avant même sa propre résurrection. Alors ce qui est intéressant à regarder maintenant, c'est le baptême. C'est très intéressant de dire que le baptême est un véritable germe de la résurrection. Donc pour bien comprendre cette vérité de foi, il faut parcourir un petit passage de la lettre aux Romains qui est très dense. Donc là, il faut écouter attentivement. C'est un texte écrit par saint Paul qui est assez complexe et qui mériterait bien sûr beaucoup de développement. Donc saint Paul s'adresse aux Romains. Il dit « Ne le savez-vous pas, nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. » Donc on a simplement 3 versets de Paul qui sont d'une densité extraordinaire, qui mériteraient de très longs développements. Alors en fait, ce texte qui est fort nous dit que dans la foi, nous sommes passés de la mort à la vie par le moyen du baptême. En fait, le baptême, concrètement, c'est une sorte de traversée qui effectivement prend son sens quand on entend au cœur de la vigile pascale, la troisième lecture, Exode 15, c'est-à-dire effectivement le peuple de Dieu qui traverse la mer Rouge. Et c'est un texte fondateur à la fois pour la tradition juive et évidemment relu par la tradition chrétienne comme étant effectivement la promesse du baptême. Donc ça, que le baptême, qu'est-ce que ça a fait? Nous sommes passés avec Jésus dans sa mort et nous passons aussi avec lui dans sa vie. Autrement dit, notre être a déjà reçu les prémices de la vie éternelle. Il y a en nous une sorte de tête de pont du royaume qui nous est donnée. Nous avons en quelque sorte déjà un pied, si l'on peut dire, dans le royaume. Pas totalement, mais il y a quelque chose de notre vie qui est touché par une vie plus vivante que la nôtre. Pour citer saint Paul, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Et ça, c'est la grande grâce du baptême, et peut-être que c'est à l'écoute des convertis, donc du coup des néophytes, qui étaient jadis catéchumènes, voilà, quand ils ont reçu le baptême, ils sont capables de témoigner de l'avant et de l'après, chose qu'un petit enfant ne pourra pas faire. Donc évidemment, c'est une grâce d'être baptisé quand on est petit, mais quand on est adulte, on a aussi quelque part une grâce un peu différente, c'est qu'on peut témoigner de l'avant et de l'après. Et c'est important de noter qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de catéchumènes, beaucoup de demandes en direction du baptême. Et ça veut dire qu'on se doit d'être attentif à ces nouveaux convertis et qui auront bien des choses à nous partager sur leur expérience de l'avant et de l'après. Et peut-être que ça va réveiller nos communautés endormies. Donc ça veut dire que les nouveaux baptisés peuvent réveiller les anciens baptisés. Donc le baptême, effectivement, permet d'être uni à la mort et à la résurrection du Christ, mais attention, attention, le baptême ne peut pas se débrouiller tout seul. Donc on a reçu un germe, mais le germe, comme tous les jardiniers le savent bien, doit être entretenu. Et ce n'est pas un hasard si l'évangile est rempli de paraboles qui sont souvent à connotation agricole. Cela veut dire que le baptême ne peut pas être laissé tout seul. Il y a une sorte de germe de vie divine qui a été déposé dans la terre de notre cœur, mais il va falloir ensuite coopérer, collaborer avec le don de Dieu. Le don de Dieu nous précède, mais il faut ensuite le recueillir. Donc si l'essentiel du travail est fait, puisque Dieu nous fait un cadeau extraordinaire, il faut ensuite ouvrir ce cadeau, le déployer, et ça veut dire qu'il va falloir vivre une conversion, une transfiguration. Et c'est justement la pédagogie du carême qui nous rappelle effectivement au moins une fois par an que nous ne sommes pas arrivés. Nous sommes baptisés, certes, mais nous cheminons vers le baptême pour désensabler cette source. Parce que la source du baptême est puissante, mais elle est fragile. Et donc c'est le carême qui nous rappelle au moins une fois par an qu'on a besoin effectivement de passer par un certain combat spirituel et de savourer notamment la grâce de la confession pour aider bien évidemment ce baptême qui a une potentialité énorme, puisque la potentialité du baptême, c'est rien de moins que la sainteté. Donc on va dire que les baptisés sont des saints en puissance et que les saints, ce sont des baptisés qui ont déployé la profondeur de leur baptême. Donc en tout cela, nous avons la grâce du baptême qui va nous donner une vie nouvelle, mais nous sommes invités, bien sûr, à collaborer pour déployer tout ce cadeau merveilleux que nous avons reçu. Donc, une question va maintenant se poser, mais alors, que dire des non-baptisés? C'est vrai que c'est une question importante, ces personnes n'ont pas reçu le baptême, donc qu'est-ce qui va leur arriver? Et c'est là qu'il faut parler de la théologie du salut. Alors, pour nous chrétiens, nous affirmons directement que le Christ est l'unique sauveur. Ça peut paraître un peu direct, mais c'est effectivement ce qui est écrit dans bien des passages du Nouveau Testament, de la bouche de Jésus lui-même. Par exemple, « Je suis le chemin, la vérité, la vie », c'est quand même assez net. Ou par exemple, cette parole intéressante de saint Pierre en acte 4, verset 12, « En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver ». Donc nous affirmons effectivement que Jésus est entre guillemets le passage obligé, hein, nul ne va vers le Père sans passer par moi, affirme le Seigneur. Et ça pose donc la question, mais alors qu'advient-il à ceux qui n'ont pas connu Jésus, qui n'ont pas reconnu, qui n'ont pas pu le connaître, puisqu'il y a des raisons très différentes qui font qu'on n'est pas chrétien, parce qu'on est né dans un pays différent, on avait une religion différente, on n'a pas reçu l'évangile, on n'a pas croisé des missionnaires. Donc c'est sûr que c'est des vraies questions. Donc premier point à retenir, Jésus est le seul sauveur. Et alors il y a deux options. Les chrétiens sont sauvés par la foi, c'est-à-dire qu'ils vont accueillir la parole révélée, et ils vont aussi répondre à cette parole révélée par les œuvres. Donc autrement dit, c'est très bien de croire, mais on ne va pas croire en se tournant les pouces. Donc c'est un peu caricatural, mais si vous voulez, la foi, bien sûr, c'est très puissant parce que ça nous unit à Dieu. On va donc devenir enfant de Dieu par la foi, les sacrements, etc. Mais il faut aussi une réponse concrète. Donc là, ça nous renvoie à Matthieu 25, donc le Christ qui s'identifie à tous les pauvres de ce monde. Donc autrement dit, un chrétien qui croit sans agir, c'est quand même problématique. Alors il y a des moments de la vie où on a peut-être moins de temps ou qu'on n'a plus tellement la force d'agir, mais tant qu'on peut le faire, c'est important d'être dans l'action, notamment je pense au carême qui nous rappelle notamment la prière, le jeûne, mais aussi l'aumône. Et l'aumône, c'est de manière très concrète être tourné vers l'autre. Alors on n'est pas bien sûr Mère Teresa ni Saint Vincent de Paul, on ne peut pas aider tous les pauvres, mais rappelez-vous cette parole que Jésus dit à Saint Vincent de Paul, « Vincent, je ne te demande pas de t'occuper de tous les pauvres, mais des pauvres que je t'envoie. » Donc ça veut dire que là aussi, Dieu sait très bien que nous prenons une petite part dans la contribution pour soulager ceux qui ont moins que nous. Donc les chrétiens sont sauvés par la foi et les œuvres, mais alors les non-chrétiens, eh bien ils sont sauvés par l'écoute de leur conscience, c'est-à-dire que l'Esprit-Saint va les conduire, alors certains plus ou moins dans les voies de l'Évangile ou au contact de l'Église, mais en tout cas la majorité est guidée par sa conscience, alors il y en a qui vont refuser d'écouter leur conscience, ça c'est autre chose, mais en tout cas, l'Esprit-Saint va les guider pour qu'ils fassent le bien, donc écouter leur conscience et agir en conséquence. C'est les deux, là aussi. Parce que si on écoute sa conscience et qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire, il y a aussi un problème. Donc c'est très bien d'écouter les appels, les motions, l'Esprit-Saint va déplacer et il va inviter à prendre compassion des autres. Et peut-être que pour certains, dans la rencontre du pauvre, ils vont peut-être commencer un chemin de foi, possiblement. En tout cas, le Concile Vatican II a affirmé qu'il existe une réelle possibilité d'être sauvé par tous, c'est-à-dire que toute personne humaine eh bien, bénéficie de cette possibilité, je cite le Concile, « puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit-Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. » Donc là, c'est un petit passage assez dense du Concile. On rappelle d'abord que le Christ est mort pour tous. Ça, c'est important de se dire que Jésus n'est pas mort simplement pour les chrétiens. En fait, quand Jésus meurt et ressuscite, le mystère pascal, en fait, il rayonne sur l'histoire entière. Donc tous ceux qui ont vécu avant Jésus, les contemporains de Jésus et tous ceux qui, comme nous, apparaissent, on va dire, après Jésus. Donc ça veut dire que le mystère pascal, pour prendre une image du catéchisme de l'Église catholique, il surplombe l'histoire. Ça veut dire que c'est un événement qui est à la fois bien daté, bien circonstancié, environ l'an 30 ou 33, selon les dates de la Pâque qui peuvent correspondre, donc au début de l'ère chrétienne, il y a 2000 ans. Mais effectivement, cet événement, il a cette capacité extraordinaire de toucher tous les temps. Donc ce qui est certain, c'est que tous les gens qui ont vécu avant Jésus et après Jésus, et du temps de Jésus, mais qui n'étaient pas forcément conscients de ce qui se passait, ont été touchés par cet événement. Ça, c'est assez bouleversant. Donc le Christ est mort pour tous. Et le Concile rajoute « La vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine. » Donc ça veut dire que nous sommes créés, on n'est pas ici du hasard, hein. On n'est pas des numéros. On a tous, dans le cœur de Dieu, il nous appelle par un prénom. Et donc toute personne humaine est vraiment destinée à entrer en communion avec lui. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas de favori, il n'a pas de chouchou. Il n'y a pas d'un côté ceux qui accéderaient à la foi, et de l'autre côté ben, ceux qui devraient se débrouiller avec... pas grand-chose. Donc toute personne humaine a une vocation divine, mais en effet, ce qui est étonnant, et là, c'est, on n'a pas les moyens de répondre à la question du pourquoi, nous n'avons pas les mêmes moyens pour répondre effectivement à l'appel de Dieu. Des moyens différents, et ça serait effectivement une autre question. Mais le Concile rajoute, nous devons tenir que l'Esprit-Saint offre à tous, d'une façon que Dieu seul connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Donc effectivement, toute personne humaine est incluse dans l'offre de salut et chacun va recevoir des moyens pour entrer dans l'amitié divine à des degrés bien sûr assez différents. Alors cela dit, les chrétiens ont une responsabilité significative, c'est de faire connaître la plénitude des moyens du salut. C'est le discours missionnaire en Matthieu 10, verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Et là c'est très, très, très important de se dire que on doit être missionnaire. Alors, missionnaire, ça veut dire quoi? Il y a deux grandes lignes dans la mission, mission ad intra, mission ad extra. La mission ad intra, ça va être plutôt dans la transmission, Donc ce sont des baptisés qui vont affermir la foi des baptisés ou de personnes en passe d'être baptisées. Donc on va s'adresser aux enfants, on va s'adresser aux enfants du catéchisme, de l'éveil à la foi, de l'aumônerie, des mouvements de jeunesse, de tous ceux qui cheminent vers un sacrement, les parents qui vont présenter un petit enfant au baptême, ceux qui cheminent vers la confirmation, les fiancés qui veulent se marier, etc., etc. Donc là, on s'adresse à des personnes qui finalement sont plutôt en demande et qui sont plutôt finalement, on va dire, favorables au message de l'Église, quoi. Et puis la mission ad extra est beaucoup plus décapante parce que pour le coup, là, on s'adresse à des gens qui ont des traditions différentes ou qui n'ont pas de racines. Et donc là, on leur propose eh bien, la foi, sans leur imposer évidemment, mais on essaie de leur montrer qu'est-ce que ça change d'être chrétien. Alors quand on fait la mission de rue, souvent on peut effectivement avoir des refus polis, des refus moins polis, des personnes qui acceptent d'écouter, des personnes qui disent ben voilà, je suis pressé, ça ne m'intéresse pas. Donc il y a pas mal de cas de figure, mais nous comme chrétiens, ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas là pour faire du chiffre, mais on a le devoir de l'annoncer. C'est la parole de sainte Bernadette Soubirous à son curé, je ne suis pas chargé de vous le faire croire, mais de vous le dire. Elle parlait donc bien sûr des messages qu'elle recevait de la Vierge Marie qui apparaissait. Donc nous, on n'est pas là pour toucher les cœurs. Ça, c'est le don de Dieu. Dieu seul touche les cœurs. Nous, on peut toucher peut-être les intelligences. On peut être un signe. On peut être un peu comme un autostoppeur, si vous voulez, le long d'une route qui appelle, qui demande. Mais on ne va pas forcer l'automobiliste à s'arrêter. Par contre, l'automobiliste, quand il voit des autostoppeurs, à la fin, il va dire peut-être que je vais en prendre un finalement parce que c'est un peu dommage de les laisser sur le bord du chemin. Et donc nous, si on multiplie les signes, on peut espérer que Dieu touchera le cœur, mais en même temps, la liberté est sauve. Donc vous voyez que la résurrection, ce n'est pas simplement un fait abstrait, c'est quelque chose qui doit nous transformer et en plus nous inviter à rayonner. Et donc j'arrive à mon sixième paragraphe, un témoignage. Parce que si nous vivons d'une vie nouvelle, il faut dévoiler cette vie au monde. Et en fait, la réponse, je dirais la plus belle réponse à la résurrection quand on est chrétien, c'est la sainteté. Là, il faut réécouter le discours, le début du discours de Jésus sur la montagne, en Matthieu 5, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Donc ce que Jésus nous demande, c'est simplement d'être des reflets, de donner de la saveur. Et effectivement, aujourd'hui, l'Église, en Occident, connaît des choses qui poussent et des choses qui meurent, et on a peut-être un peu de mal à retrouver le lien avec cette saveur évangélique. Mais les saints sont celles et ceux qui sont ressuscités, d'une certaine manière, avant la résurrection. C'est-à-dire qu'ils ont vécu à fond de leur baptême et ils ont donc déployé la part de vie nouvelle qui leur a été accordée, comme à nous d'ailleurs, au jour de leur baptême. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui rayonne en eux de manière encore plus grande que la moyenne et ça donne déjà dans leur vie une certaine image du royaume, une certaine image de la résurrection. Et donc la fécondité des saints, ça peut être par exemple des œuvres qu'ils ont fondées et qui plusieurs siècles après continuent comme des communautés religieuses. Ça peut être des écrits qui n'ont pas pris une ride et qui sont encore lus, traduits et diffusés. Ça peut être des intuitions qu'ils ont portées et qui ont bénéficié à l'Église, par exemple dans des moments où il fallait réformer l'Église, etc., etc. Donc ce qui est certain, c'est que les saints ont vécu d'une vie vraiment nouvelle et on peut dire que le royaume est vraiment descendu de leur vivant et autour d'eux. Donc ils ont vraiment apporté quelque chose de nouveau et ça a un véritable parfum de résurrection. Et d'ailleurs, dans l'iconographie chrétienne, on représente de manière traditionnelle le saint ou la sainte avec une auréole. Et l'auréole, c'est donc ce disque doré autour de la tête et qui signifie la présence de l'Esprit-Saint. Donc cette personne baptisée, elle a tellement bien déployé ce germe de vie baptismale, de vie divine, que l'Esprit-Saint a vraiment pris possession de son être et a rayonné dans ses actions, dans ses paroles, dans ses écrits, selon le don, bien sûr, qu'elle avait reçu, puisque les saints sont assez différents, bien que étant tous baptisés. Ils ont pas mal de points de différence, mais notamment un point commun, c'est qu'ils sont tout de même tous baptisés. Donc ils ont déployé leur baptême, et c'est devenu effectivement un véritable germe de sainteté. Je termine par une septième section, c'est la mission que j'avais déjà un petit peu dévoilée. La résurrection est le fondement de la mission. Et tout commence au matin de Pâques par une annonce qui tient en trois petits mots qui ont changé le monde. Il est vivant. Il est vivant, c'est trois mots très simples, mais qui ont changé depuis 2000 ans la face du monde. Et c'est un cri de victoire. Il est vivant, et donc il est plus fort que la mort, et donc nous aussi, associés à lui, nous pourrons traverser cette épreuve et connaître avec lui sa gloire et sa victoire, qui est déjà à l'œuvre, notamment dans son Église, dans les saints, dans les miracles, dans les sacrements, etc. Donc nous avons reçu une nouvelle formidable, une bonne nouvelle, ça s'appelle l'Évangile, et nous annonçons que Jésus est vivant, et nous en vivons surtout. C'est très bien de le lire, c'est très bien de le proclamer, mais ensuite il faut en vivre, et le mieux c'est ensuite de l'annoncer. Et donc cette annonce, finalement missionnaire, va nous conformer à sa vie nouvelle. Et c'est là le défi d'une vie chrétienne, c'est d'unir effectivement la bonne théorie et la bonne pratique. Vous connaissez le drame des pharisiens, ils disent et ne font pas. Ça, c'est la grande critique de l'Évangile. C'est vrai que souvent les pharisiens sont présentés, alors pas toujours sous un regard négatif, mais il y a quand même quelques pharisiens qui ont quand même fait de bonnes choses, mais on ne va pas mettre tout le monde dans un même sac. Toutefois, le plus souvent, effectivement, Jésus a des critiques assez vertes et assez directes contre les pharisiens. Pourquoi ? Sans doute parce qu'ils vont diviser l'action et la théorie. Et nous, comme chrétiens, on a vraiment un défi, c'est de vivre de manière unifiée entre la parole et les actes. Donc d'un côté, si on sait que Jésus est vivant et que de l'autre, on ne l'annonce pas ou on n'en vit pas, il y a un gros problème. Je termine par une synthèse. Nous retiendrons que la résurrection, c'est un événement fondateur pour l'Église. S'il n'y a pas la résurrection, l'Église n'est qu'un château de cartes. Si la résurrection existe, alors effectivement, c'est une clé de voûte qui tient fermement tout l'édifice. Donc la résurrection permet de tout tenir, avec elle tout prend sens, mais sans elle, tout s'effondre. Donc ça veut dire que ça laisse vraiment simplement deux voies. Si vous n'y croyez pas, le christianisme, en fait, c'est simplement un rêve, c'est quelque chose qui vous console. Mais si elle est pour vous vraiment réelle, alors effectivement, tout est unifié et tout est solide. Il existe dans l'Écriture quelques retours à la vie, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Alors on ne peut pas parler de résurrection au sens définitif, c'est-à-dire au sens d'une entrée dans la vie divine, mais on peut attester que ces miracles très forts sont déjà des jalons qui pointent vers la résurrection de Jésus, bien sûr. La grâce du baptême, qu'est-ce que c'est ? C'est une vie nouvelle à déployer, alors ne laissons pas notre baptême se débrouiller tout seul. Il a vraiment besoin d'être entouré comme une plante qui est choyée par un jardinier et qui pourra bien pousser et devenir effectivement belle. Les non-chrétiens ne sont pas exclus de la résurrection, mais nous devons leur en parler. Et donc effectivement, il y a un mystère, puisque certains ont reçu cette bonne nouvelle, d'autres ne l'ont pas reçue. Alors on ne sait pas, on ne va pas dire pourquoi, mais en tout cas, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, c'est leur en parler. Leur en parler et leur montrer ce que ça change. Parce que si on leur en parle sans montrer ce que ça change, effectivement, ce n'est pas très convaincant, quoi. La vocation baptismale, en fait, c'est quoi ? C'est donner une expression de la vie nouvelle. Et cette expression de la vie nouvelle tient en quelques lettres la sainteté. Quand on croise un saint, quand on lit la vie d'un saint, quand on lit ses écrits, on sent que cette personne est vraiment nouvelle, qu'elle est complètement renouvelée et qu'elle a vraiment une part du royaume à nous partager, à nous apporter. Et ce qui est étonnant, c'est que plus les siècles passent, plus les récits des saints, leurs œuvres, ne prennent pas une ride et deviennent toujours de plus en plus actuelles et modernes. Donc ça nous parle encore aujourd'hui. Enfin, dernier point à mémoriser, nous avons reçu une mission, partager ce que nous avons reçu et vivre en fait en homme, en femme et en enfant ressuscité dès avant la résurrection. Je termine cette petite émission par une prière qui vient de la tradition orthodoxe qu'on appelle le Tropaire de la résurrection. C'est trois phrases très simples que les orthodoxes vont répéter beaucoup entre Pâques et la Pentecôte. Le Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qui étaient morts, il a donné la vie. Amen.
Amen. Merci Père Mathias Amiot pour cette très belle émission. Et nous vous retrouvons donc avec la Vierge Marie le mois prochain. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Trésor de l'année liturgique avec le Père Mathias Amouyo. Aujourd'hui, nous parlions de la résurrection et si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.